Classique.
Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter naturellement sur ce qui se passe à la fois au Proche-Orient et en Ukraine, les deux étant liés, ayant été liés d'ailleurs par le président ukrainien qui a fait part de sa tristesse, plus que de la tristesse d'ailleurs, de voir à quel point Israël avait été efficacement soutenu face à l'offensive aérienne lancée par l'Iran contre Israël, alors même que tout est chichement pesé, sous-pesé, et prive aujourd'hui les Ukrainiens des moyens de se défendre véritablement. Donc nous avons avec nous aujourd'hui, pour essayer de décrypter un petit peu tout cela, Frédéric Ancel, que nos auditeurs connaissent bien, ou commencent à bien connaître. Bonjour Frédéric.
Bonjour, bonjour.
Frédéric Ancel, qui enseigne la géopolitique à Sciences Po, et dont le dernier ouvrage en date, ce sont les 100 mots de la guerre, édité au PUF dans la collection Que sais-je, me semble-t-il.
Absolument.
Voilà. Donc Frédéric, on va peut-être commencer par l'immédiateté, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre, d'une part, le premier épisode, un bombardement israélien à Damas sur un bâtiment consulaire iranien, les Iraniens interprétant cela comme une agression sur leur territoire, ripostant par une offensive aérienne absolument phénoménale en termes de masse, composée de drones et de missiles de croisière, donc très impressionnant et pourtant sans grand effet sur le terrain, dont on dit maintenant que les Iraniens avaient prévenu notamment d'autres pays arabes qui à leur tour ont pu prévenir Israël, donc un jeu assez subtil, les Iraniens disant « bon maintenant nous sommes quittes », donc fin de l'épisode, et en revanche Israël réfléchissant à un moyen de réagir à ce qui a été une première dans l'histoire militaire de la région, c'est-à-dire une offensive en bonne et due forme de l'Iran contre le territoire israélien. Voilà, très grossièrement rappelé ce qui s'est passé, Frédéric, avec à l'intérieur de cela, une partie de bras de fer qui continue entre Joe Biden, le gouvernement américain, et Netanyahou, et qui a eu le soutien plein et entier des États-Unis, pas seulement des États-Unis d'ailleurs, pour faire face à l'offensive iranienne, et qui en même temps se trouve à nouveau face à un refus des Américains d'une réaction à la réaction, en quelque sorte. Frédéric Ancel.
Oui, c'est exactement ça. Alors, je nuancerai la première que constitue actuellement, de manière authentique, l'attaque iranienne sur le sol israélien. Oui, c'est une première depuis 1979 et l'avènement de la République islamique d'Iran, qui d'ailleurs a toujours nié, dès qu'elle est arrivée au pouvoir, le droit à l'existence d'Israël, alors même qu'il n'y avait jamais eu de guerre entre les deux pays. On peut même remonter au temps biblique, il n'y a jamais eu de guerre entre la Perse et la Judée. Et que par ailleurs, il n'y a pas de contentieux territorial, bien évidemment. C'est important de le rappeler. Donc c'est une première, oui, c'est vrai. Et alors en même temps, une petite nuance, les Iraniens se sont comportés de manière absolument habituelle, c'est-à-dire de façon très prudente. Je ne dis pas que leur attaque était légale, légitime et morale, elle était illégale, illégitime et immorale. Le problème, c'est que sur le plan strictement stratégique, on a affaire à un pouvoir relativement pragmatique, relativement donc prudent, qui effectivement a prévenu, a averti. On a quand même rarement vu dans l'histoire militaire mondiale d'attaques moins surprises et moins fulgurantes. Ils ont quasiment donné les heures de départ et d'arrivée des drones et des missiles. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas pu être très destructeur. Mais les Iraniens connaissaient bien le système de anti-missiles et anti-aériens anti-balistiques d'Israël. Et effectivement, vous l'avez bien rappelé, ils ont prévenu les États arabes. Alors maintenant, le problème est le suivant. Israël ne peut en aucun cas se permettre de ne pas surriposter pour une raison qui tient en deux mots, crédibilité dissuasive. Et c'est l'assurance-vie de l'État d'Israël au Moyen-Orient. Je ne parlerai pas du volet palestinien, c'est autre chose. Autant sur la question palestinienne, et notamment dans la guerre à Gaza, il y a énormément de choses à dire, à redire, et notamment contre le gouvernement Netanyahou, autant face à un pays d'abord un État constitué et un pays de plus en plus puissant sur le plan balistique et qui par ailleurs tous les jours insiste au plus haut niveau de son pouvoir sur la nécessaire destruction d'Israël, autant là les Israéliens ne peuvent pas se permettre de laisser en quelque sorte l'Iran les frapper sur leur sol.
Jean-Claude Casanova.
Oui, si on repart
de l'acte initial, les gardiens de la Révolution, c'est-à-dire au fond les militaires agents iraniens, n'étaient pas des personnages officiels au Liban. C'est pas le gouvernement libanais qui les a invités. Et ils soutiennent le Hezbollah qui exerce une quasi-guerre sur la frontière nord d'Israël. Israël n'a pas revendiqué officiellement le missile sur l'annexe de l'ambassade qui a tué les trois dirigeants militaires iraniens, mais il l'a certainement, il n'y a aucun doute là-dessus, sur son acte. Et je ne vois pas en quoi cet acte est critiquable compte tenu du comportement du Hezbollah, qui est un instrument dans la main de l'Iran, à la fois pour conforter la Syrie et pour se donner une forme de popularité, pour contrôler aussi une partie du Liban, et donc je ne vois pas le reproche moral ou politique que l'on peut faire à Israël sur le premier point. Sur le second point, l'Iran a choisi une offensive, a prouvé d'une certaine façon sa capacité offensive, et Israël a démontré sa capacité défensive. Et comme Frédéric, je pense qu'ayant démontré sa capacité défensive, il est obligé maintenant de démontrer lui-même sa capacité offensive. Alors vraisemblablement, il va chercher une capacité offensive plus réduite, plus ciblée, symbolique un peu comme ont fait les Iraniens, mais il est tenu de montrer qu'il est le meilleur en défensive, ce qu'il vient de faire, et qu'il est le meilleur en défensive, en offensive. Sinon, sa crédibilité et sa dissuasion sera affaiblie. Alors, ça se fera en connivence avec les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ne prendront pas une attitude positive annonçant la réplique israélienne. Les Israéliens préviendront les États-Unis et ils procéderont à un acte ciblé, à mon avis, limité, prouvant qu'ils sont meilleurs que les Iraniens également dans l'offensive.
Alors cet épisode, entre guillemets, a remis l'accent ou l'éclairage sur l'Iran, le rôle et la place de l'Iran dans la région et sa politique. Et en même temps, c'est un nouvel épisode, Frédéric Ancel, de la relation compliquée maintenant entre Netanyahou et Joe Biden, entre Israël et les États-Unis, puisque les États-Unis insistent beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas répondre à la réponse. Comment regardez-vous les choses sur ces deux points? Parce que quel Iran cela dessine-t-il?
Alors oui, effectivement, sur l'Iran, contrairement à beaucoup d'observateurs ayant considéré que l'Iran avait marqué un grand point politique, je pense que le roi est nu. Au contraire, l'Iran a mis en évidence, à travers sa frappe sur Israël, ce qu'on savait depuis de nombreuses années, mais qui n'était pas officiellement établi, à savoir que dans ce Moyen-Orient majoritairement arabe, et on peut d'ailleurs, je parle du Moyen-Orient, on peut d'ailleurs jusqu'au Maroc, la grande majorité des États arabes, dont on sait qu'ils sont sunnites, ne fonctionnent pas avec l'Iran. Non seulement ils ne marchent pas avec l'Iran contre Israël, mais les signataires des accords d'Abraham, en dépit de 6 mois de guerre extrêmement dure à Gaza, n'ont pas quitté les accords d'Abraham. Donc là je pense aux Émirats arabes, bien sûr, Maroc, Soudan et Bahreïn. Mais mieux que ça, ou pire que ça du point de vue de Téhéran, la Jordanie est carrément intervenue militairement. Alors ça, si vous voulez, la Jordanie, c'était quand même pas gagné, parce que c'est l'un des pays les plus faibles de la région, sinon du monde. Eh bien, la Jordanie assume d'avoir demandé à ses alliés, y compris la France d'ailleurs, et assume d'avoir elle-même intercepté des engins considérés comme hostiles, donc iraniens considérés comme hostiles. Donc là, on a quelque chose de très révélé aujourd'hui sur la place publique. Et au fond, autant Israël peut bénéficier de l'alliance militaire, alors défensive bien sûr et tactiquement offensive des États-Unis, voire même du Royaume-Uni de la France, autant l'Iran ne bénéficie pas et ne bénéficiera pas d'une alliance militaire russe ou chinoise qui n'existe pas. Il y a un partenariat militaire sur le plan commercial en réalité, puisque la Russie notamment achète beaucoup de drones suicides à l'Iran, mais il n'y a pas d'alliance impliquant une intervention russe en faveur de l'Iran et encore moins chinoise. Et donc de ce point de vue-là, soit face au monde arabe, soit vis-à-vis de la Russie et de la Chine, non, l'Iran a démontré qu'il était à peu près seul. Maintenant, pour vous répondre sur Biden, Biden déteste Netanyahou. Et je vais vous dire, entre 70 et 80% des Israéliens n'ont pas attendu Biden pour détester eux-mêmes Netanyahou. Enfin, surtout depuis la catastrophe du 7 octobre. Le monde entier le déteste. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Biden est prêt à soutenir en défensif, et il l'a montré à plusieurs reprises, et il est en train de le montrer encore, en proposant au Congrès de voter une loi de soutien militaire supplémentaire encore à Israël. Donc il est prêt à soutenir Israël, mais il ne souhaite pas laisser Netanyahou menait une politique aventuriste, extrêmement belliqueuse, soufflée à la droite de son cabinet par des fascisants comme Ben-Gvir et Smotrich. Et aujourd'hui, on est dans cette équation qui est extrêmement compliquée. Dernier point, si vous permettez, hier a été... Il y a eu un vote au Congrès américain et à une écrasante majorité... les congressmen ont indiqué que il était très clairement que le slogan de la mer au Jourdain était un slogan clairement antisémite. Et pourquoi j'insiste sur l'écrasante majorité? Parce que là encore, trop d'observateurs, me semble-t-il, assez paresseux, ces derniers mois, ont considéré que décidément le Parti démocrate s'était terminé, il ne soutiendrait plus Israël. C'est faux. Ce qui est juste, c'est qu'il demande avec raison une pression dans la dimension humanitaire de la guerre à Gaza et une pression contre l'aventurisme de Netanyahou, mais certainement pas un abandon d'Israël.
Jean-Claude ?
Non, je voudrais revenir sur le problème, le mystère iranien, parce que, au fond, l'Iran soutient le régime syrien. Grâce à l'intervention américaine en Irak, bénéficie désormais d'une prépondérance en Irak. Pourquoi mène-t-il une politique aussi délibérément hostile à Israël par le soutien au Hezbollah et par le credo général? Incontestablement, dans les pays musulmans au sens large, c'est l'Iran qui est le plus anti-Israël aujourd'hui. Alors il y a deux interprétations. Une, c'est qu'il y a une volonté religieuse chiite de s'accorder par cela même une prépondérance dans le monde musulman, apparaître au fond comme le vrai défenseur de l'islam au sens large, en considérant que le problème israélien est le problème central, ou bien c'est simplement un régime autoritaire qui cherche dans le nationalisme une certaine forme de consolidation. D'où l'ambiguïté des politiques occidentales ou de la politique Biden. Parce que Biden, actuellement, il veut calmer le jeu vis-à-vis de l'Iran, mais en même temps, il doit, au fond de lui-même, sans le dire, il doit penser qu'il faut marquer le coup vis-à-vis des Iraniens, qu'il faut leur dire que ce n'est pas bien de faire des opérations militaires de ce type. Donc je ne suis pas du tout sûr, c'est entendu qu'ils n'aiment pas Netanyahou, mais personne n'aime Netanyahou, mais je pense qu'il ne sera pas défavorable in petto à une contre-attaque israélienne.
Alors c'est un problème plus large d'ailleurs, parce que on ne dira jamais assez d'ailleurs le mal qu'a fait Donald Trump en déchirant l'accord nucléaire qui avait été passé avec les Iraniens, qui donnait un droit de contrôle de fait à un certain nombre de pays, dont l'Europe, mais aussi la Russie, les États-Unis, sur la marche de l'Iran vers la bombe atomique, vers l'arme nucléaire. Mais en même temps, on a toujours préféré vis-à-vis des mollahs une sorte d'apaisement ou de doctrine traditionnelle de containment, essayons de les contenir. Or, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans ce laps de temps de 30 ou 40 ans? On peut considérer que l'Iran n'a cessé d'armer des bras pour faire la guerre à Israël ou pour une ambition, comme le disait Jean-Claude, peut-être plus impériale. Qu'en pensez-vous, Frédéric?
Oui, ben j'en pense que l'apaisement rappelle d'extraordinairement mauvais souvenirs. Ça, c'est le premier point. Et face à des régimes dictatoriaux volontiers impérialistes, en général, l'apaisement, ça se conclut extrêmement mal. Ça, c'est un point. Deuxième point, je vous rejoins.
Vis-à-vis de l'Union soviétique, ça a marché.
Oui, alors c'est vrai, vous avez raison. Il y a toujours des exceptions à toute règle, vous avez raison, celle-là est intéressante. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison quand vous dites que Trump, en août 2018, en déchirant l'accord de Vienne du 14 juillet 2015, a fait une énorme bêtise, parce que de toute façon, l'Iran n'aura pas la bombe parce que les Israéliens ne le toléreront pas, et moins encore depuis quelques jours. Puisqu'on sait maintenant, de manière très claire, mais on le savait, mais on le sait encore mieux, que la balistique iranienne est de plus en plus performante, et qu'une seule bombe sur Israël, ça signifierait la mort d'Israël.
Bien sûr.
Donc il faudra y aller à la baïonnette. Et si vous voulez, ce qui est terrible, c'est que Trump, oui, porte une responsabilité, me semble-t-il, écrasante, aujourd'hui dans cette nécessité pour Israël et ses alliés d'empêcher coûte que coûte, y compris un jour par la voie militaire s'il le faut, mais ce qui enclenchera vraisemblablement un conflit régional majeur, d'empêcher donc l'Iran d'avoir la bombe. Je suis de ceux, enfin, qui considèrent que ce régime n'a fait qu'évoluer de manière cosmétique. J'étais assez optimiste dans les années 2010, lorsque, après le magistère de ce très fasciste président Ahmadinejad, très bas de plafond par ailleurs, il y avait eu une certaine ouverture. Et en réalité, beaucoup d'amis iraniens vivant ici, vivant aussi en Iran, beaucoup de chercheurs sur l'Iran me mettaient en garde quant à la capacité d'une très grande souplesse, d'une très grande adaptation vis-à-vis de l'extérieur et au regard des circonstances qui leur étaient plus ou moins favorables de ce régime. Eh bien, je crois que vous avez raison. Ce régime, en réalité, lorsqu'il a changé à plusieurs reprises depuis 1979, eh bien, il a changé sur le plan cosmétique, scénographie dans une certaine mesure, rhétorique et sémantique, mais pas sur le fond. Et l'idéologie de fond, c'est un islamo-nationalisme qui est tout à fait assumé. Jean-Claude vient de le dire ou de le rappeler. L'Iran est une très vieille, très grande nation impériale ou empire national, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, Khomeini et ses successeurs ont toujours très subtilement joué à la fois de l'identité chiite, de revanche historique sur la majorité sunnite qui en général a toujours, enfin qui a très généralement méprisé donc cette minorité chiite, notamment au Liban, et en même temps jouer du nationalisme perse, du nationalisme iranien. Et force est de constater qu'aujourd'hui, plus les Iraniens se sentent isolés ou menacés, disons, par un certain nombre d'États, dont Israël, plus, et c'est à la fois cause et conséquence, plus leur oppression est violente à l'intérieur du pays. C'est un très grand classique chez les dictateurs aux abois.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Frédéric Ancel, qui enseigne la géopolitique, notamment à Sciences Po, à Paris. Jean-Claude, vous vouliez revenir juste d'un mot sur l'Iran.
Je suis d'accord sur ce que disait Frédéric, mais je voudrais ajouter que l'Iran, d'abord, c'est un peuple assez exceptionnel. La qualité iranienne, la qualité des Iraniens dans l'ordre intellectuel, on le voit d'ailleurs dans les Iraniens qui vivent aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis, c'est un peuple d'une très grande qualité. La société iranienne est en désaccord avec les mollahs. On le voit dans les manifestations de femmes, on le voit dans le comportement des Iraniens dans le stade quand ils se sont mis à applaudir Israël, etc. Autrement dit, les mollahs et le gouvernement iranien poursuit la politique qu'indique Frédéric, mais on ne peut pas dire que la société iranienne l'appuie. Et donc, dans les stratégies occidentales à l'égard de l'Iran, il faut tenir compte de l'évolution de la société qui peut contrarier l'évolution du régime et obliger le régime à évoluer. Donc, la politique de confrontation ne suffit pas avec l'Iran. Il faut à la fois une politique de fermeté et une politique permettant à la société de détruire le régime, exactement comme le containment a marché vis-à-vis de l'Union soviétique. Vis-à-vis de l'Union soviétique, c'est la société soviétique qui a détruit le régime stalinien. Il est en partie renaît aujourd'hui en partie.
Que Poutine réhabilite, oui.
Mais
justement,
quand même,
ça nous fait une transition toute faite. Il nous reste très peu de temps, Frédéric Ancel, mais je voulais quand même aussi évoquer du coup la réaction du président Zelensky ukrainien, qui est évidemment pleure toutes les larmes de son corps, parce qu'il dit, ben, vous voyez, quand vous voulez être efficace, vous êtes efficace, et vous l'avez été pour défendre Israël, mais nous sommes là devant une incapacité de plus en plus grande à répondre à la pression russe. Que pensez-vous de cela, Frédéric Ancel ?
Oui, bon, d'abord, il est un tout petit peu injuste, mais on ne peut pas lui en vouloir. Les États-Unis, dans une moindre mesure, les Européens, ont littéralement sauvé l'Ukraine il y a 2 ans. Donc, si vous voulez, on en est quand même à plusieurs dizaines de milliards de dollars d'investissement en termes d'armes. Mais en même temps, bon, il est dans son rôle et on ne peut pas lui en vouloir. Mais objectivement, ce n'est pas exact. Et le deuxième point, c'est ce qui peut maintenant se passer dans les prochains mois. Vous savez, lorsque la Turquie avait décidé littéralement de divorcer d'Israël de manière forte, oui, virulente, en 2009-2010, les Israéliens, ils s'étaient retournés vers Chypre. vers la Grèce, vers la Bulgarie, et la Turquie, ça lui a coûté assez cher, cette histoire-là. Poutine est en train de divorcer d'Israël. Il en a le droit. Mais ce qui est en train de se produire maintenant dans la société israélienne, et notamment des stratégistes israéliens et des gens de l'état-major le disent et le préconisent, c'est une alliance, d'abord un renforcement du positionnement pro-occidental et occidental d'Israël, parce que de toute façon il n'y a pas le choix, et on le voit bien ces derniers mois, mais une alliance avec l'Ukraine. Et si vous voulez, les armements israéliens, ils sont très souvent liés à des composants américains, mais pas toujours. Une partie importante du dispositif antibalistique israélien, il est de fabrication israélienne. Bah, écoutez, vous savez ce qui va se passer ? C'est que si ça continue comme si la posture extrêmement violente de Poutine à l'égard d'Israël se poursuit, bien les Israéliens vont commencer à vendre, à fournir du matériel, ce qu'ils hésitaient à faire jusqu'à présent, justement pour ne pas trop gêner Poutine, avec lequel Netanyahou avait de très bons rapports. Ils vont commencer donc à fournir à l'Ukraine des désarmements supplémentaires.
Jean-Claude.
Oui, mais on le voit d'ailleurs aujourd'hui, tout à l'heure, la Chambre des représentants aux États-Unis va voter sur 4 projets. Un d'aide militaire à l'Ukraine, d'aide militaire à Israël, d'aide militaire à Taïwan et de renforcement de la sécurité aux États-Unis. Si par chance la minorité démocrate récupérant une minorité républicaine, si les 4 lois passent, cela démontrera la détermination américaine d'aider à la fois l'Ukraine et Israël.
Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est l'opposition d'une partie du parti républicain à la Chambre des représentants sous la houlette de Donald Trump qui bloque jusqu'à présent le programme d'aide militaire et financière à l'Ukraine conçu par le gouvernement de Joe Biden. Juste un mot pour terminer, Frédéric Ancel, est-ce que vous êtes plutôt confiant dans ce domaine ou bien au contraire, est-ce que le blocage peut persister ? Et évidemment, tout cela étant lié à la perspective, entre guillemets, d'une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du mois de novembre.
Je suis extrêmement confiant jusqu'au 4 novembre 2024. Parce que je pense que si Trump arrive au pouvoir, on n'entrera pas nécessairement dans le chaos, mais dans l'imprévisibilité. Je rappelle toujours à mes étudiants qu'avant d'être pro-ceci ou anti-cela, Trump est d'abord quelqu'un de profondément imprévisible.
Imprévisible et dangereux, parce qu'il il a clairement annoncé qu'il donnerait la main à Vladimir Poutine, de facto. Donc pour les Européens, ça sera un autre cas de figure. Mais enfin, on aura l'occasion de reparler de cette perspective. Merci en tout cas, Frédéric Ancel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre dernier ouvrage en date, s'intitule « Les 100 mots de la guerre ». C'est publié aux Presses universitaires de France dans la collection, la célèbre collection « Que sais-je ». Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.